Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez aussi bien que possible par ces temps difficiles. Pour établir des relations entre nous, nous êtres humains, nous communiquons, nous dialoguons, nous conversons et nous partageons. Nous partageons nos idées, nos points de vue, et quand nous sommes plus proches les uns des autres, nous partageons peut-être nos rêves, nos espoirs, nos difficultés, nos déceptions, et quand nous sommes vraiment proches les uns des autres, nous ouvrons nos cœurs. Avec Dieu, c'est la même chose. Pour établir une relation avec Dieu, nous communiquons, nous dialoguons, nous conversons et nous faisons part à Dieu d'un certain nombre de choses. Je parle aujourd'hui de la prière. La prière qui devrait être une expérience profonde et enrichissante, encourageante. Et si notre relation avec Dieu est profonde, nous allons ouvrir nos cœurs. C'est donc une expérience potentiellement très puissante. Nous apprenons, quand nous lisons les Écritures, nous apprenons à propos de Dieu. Qui il est, comment il est, et comment il est avec nous. Quand nous prions, Dieu apprend en ce qui nous concerne, parce que Dieu entend, parce que Dieu écoute. Dans ce contexte, il est intéressant de voir ce qui s'est passé lorsque Ézéchias a prié Dieu dans Ésaïe 37 et de nouveau Ésaïe chapitre 38. Il est intéressant de voir comment Dieu lui répondu, parce que Dieu a entendu ses prières. Il y a un autre exemple que nous pourrions citer, c'est Salomon. Salomon dans la dédicace du temple, mais nous reviendrons sur cet exemple plus tard dans le sermon. Dieu aime nous entendre. Dieu veut que nous lui confions nos problèmes, notre situation. Et notre relation avec Dieu se développe pas d'une façon unilatérale, mais dans ce sens bilatéral, dans le sens que c'est une relation qui est vivante. Nous comprenons la parole de Dieu, Dieu nous parle à travers sa parole, et nous, nous parlons à Dieu en priant Dieu. C'est une relation qui est vivante, et cette relation ne peut pas s'établir autrement. Nous pouvons nous ouvrir à Dieu, dire nos craintes, nos peurs, nous confier à Dieu. Après tout, Dieu voit tout. Dieu sait tout en ce qui nous concerne. C'est la réalité de la vie. Dieu est parfaitement au courant de notre situation personnelle, individuelle. Nous lisons dans Hébreux chapitre 4 du reste, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Ça, c'est dans Hébreux chapitre 4. Mais il y a l'étape supplémentaire. Dieu est au courant de notre situation, mais il y a l'étape supplémentaire. Cette étape supplémentaire, c'est le fait que nous en parlons, nous parlons à Dieu. Nous pouvons bien sûr faire le parallèle avec nos enfants. Les parents avisés sont à l'écoute de leurs enfants. Ils savent qu'ils peuvent les aider et ils espèrent vivement avoir l'opportunité de le faire. C'est dans les psaumes que nous trouvons les expressions « Confiez-vous, j'ai confiance ». Se confier, plein de confiance, et surtout l'expression « je me confie ». Si un chrétien a approfondi sa relation avec Dieu, entre autres par la prière, il sait qu'il peut se confier en Dieu. Dès le départ, quand nous voyons le Nouveau Testament, après la résurrection du Christ, nous voyons un autre état d'esprit. Le Christ, par la suite, après sa résurrection, était enlevé au ciel. Et par exemple, je m'y rapporte pas, mais dans Luc 24, verset 52, en parlant des disciples, « Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. » C'était avant la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, mais c'était après que le Christ était enlevé au ciel. La question que nous pouvons nous poser à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait? La réponse, nous la trouvons dans Actes chapitre 1, et nous lirons à partir de verset 12, pour voir le contexte. Actes chapitre 1, et le verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Dans la version Darby, il y a une annotation en bas de page à propos de ce verset où s'est ajoutée « et la supplication ». Effectivement, dans le grec, il y a un autre mot, il y a la prière, et puis il y a un deuxième mot qui est traduit par « supplication ». Qui est une forme spécifique de la prière. Et aujourd'hui, pour le restant de ce sermon, j'ai voulu vous parler de la supplication. Nous retrouvons ce mot, justement, dans Éphésiens chapitre 6. Nous sommes familiers avec Éphésiens chapitre 6, où la Bible parle de l'armure d'un chrétien, avec un certain nombre de détails. Mais pour que l'armure d'un chrétien soit efficace, le chrétien a besoin d'être proche de Dieu. C'est ce qui nous amène au verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Je vais vous lire ceci dans la version Darby, qui fait ressortir quelque chose qui n'est pas dans le second. Verset 18, priant par toutes sortes de prières et de supplications, donc les deux mots bien distincts, en tout temps par l'Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications, de nouveau le même mot que tout à l'heure, pour tous les saints et pour moi. J'ai regardé quelques ouvrages bibliques, quelques commentaires. En outre, et ce qui ressort, c'est que le mot traduit en français par prière, c'est un mot plus général. Tandis que supplication, comme on comprend du reste en français, c'est quelque chose de spécifique. Dans un contexte plus général, nous louons Dieu, nous remercions Dieu, par exemple, et peut-être nous allons passer un certain pourcentage, un pourcentage non négligeable de notre temps de prière à louer Dieu, à remercier Dieu. Ce sont deux choses qui sont importantes. Mais dans notre vie de prière, logiquement, il y aura également des requêtes, des demandes spécifiques, des supplications. Des requêtes pour quelque chose de précis que nous demandons à Dieu. Il y a plusieurs choses qui caractérisent le fait de supplier Dieu ou une supplication, premièrement, c'est quelque chose qui vient du cœur. Quand l'individu, quand le chrétien demande à Dieu, ça vient du cœur, c'est sincère. Ce n'est pas pour rien que nous trouvons dans les psaumes l'expression « mon cœur » à plusieurs reprises, telle que « je te louerai de tout mon cœur » ou bien « je t'implore de tout mon cœur » et encore « je t'invoque de tout mon cœur ». Une supplication est faite du fond du cœur. La deuxième chose que nous pouvons constater lorsqu'il s'agit de supplication, c'est qu'il y a une notion d'humilité. Nous voyons notre petitesse, nous voyons que nous ne pouvons pas y arriver tout seuls, nous avons besoin de l'intervention de Dieu, du Tout-Puissant, et nous nous humilions devant Dieu qui peut tout faire et qui prend soin de nous. Deuxième caractéristique, donc, cette notion d'humilité. Troisième chose, troisième caractéristique, quand il s'agit d'une supplication, c'est qu'il y a de l'intensité. Nous prions avec notre cœur et c'est aussi intense, cette prière. Une supplication est tout sauf indifférent. Troisième chose, donc, cette intensité qui caractérise une supplication. Quatrième caractéristique que nous pouvons constater, c'est que quand nous supplions Dieu, il s'agit d'une requête. Nous exposons à Dieu la nature d'un problème ou d'une demande, donc l'objet de nos supplications. Quatrième caractéristique, donc nous demandons à Dieu quelque chose de particulier. Il peut y avoir aussi, et c'est souvent le cas, un certain sens d'urgence. Donc, cinquième caractéristique, parfois. En tout cas, en ce qui nous concerne, c'est important, c'est suffisamment important à nos yeux pour supplier Dieu. Donc, l'urgence, l'importance. Nous sommes conscients que la Bible forme un ensemble. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament, mais la Bible est un tout. Nous trouvons des choses mentionnées dans le Nouveau Testament qui ont déjà été évoquées dans l'Ancien Testament et vice-versa. Et nous trouvons, c'est ce qui est intéressant, nous trouvons la même formule dans l'Ancien Testament de ce que nous venons de voir dans Éphésiens chapitre 6. Nous le trouvons dans 1 roi chapitre 8, où ces deux mots sont mentionnés. Prière et supplication. Le contexte ici, c'est la dédicace du temple que Salomon a construit, et c'est Salomon qui prie l'Éternel. 1 roi chapitre 8, verset 22. En roi 8, 22, Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit. Donc, il commence à prier Dieu. Nous voyons dans le, avec son cœur, nous voyons dans le verset 54 qu'il s'est mis à genoux. Verset 54. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, la même formule, si je puis dire, que ce qui est mentionné dans Éphésiens chapitre 6. Toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Le commentaire Jameson Fawcett et Brown, en parlant de la position que Salomon a adoptée en priant, mentionne qu'il a assumé l'attitude d'un suppliant. Il parle d'une grande humilité lorsque Salomon a donné cette prière. Et c'est Salomon qui a dit à Dieu, au début de son règne, qu'il n'était qu'un jeune homme. Nous voyons ici qu'il avait toujours cette humilité. Une prière sincère, Salomon parlait avec son cœur et avec humilité. Verset 28. Toutefois, éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Toujours cette même formule qui revient à maintes reprises. Écoute le cri, quelque chose qui sort du cœur, quelque chose qui est intense. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Verset 30. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. De nouveau, cette notion d'humilité. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Verset 33. Nous voyons ici une situation dramatique. Salomon est très réaliste dans sa prière. Verset 33. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette situation dramatique, des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Il peut y avoir, bien entendu, des situations qui sont parallèles avec nos situations, que nous nous trouvons parfois dans une situation dramatique et que nous pouvons prier Dieu, nous pouvons supplier Dieu d'intervenir et de nous aider et de nous pardonner si nous avons péché. Verset 37. Quand la famine, la peste, la rouille, l'agneau, les sauterelles, d'une espèce ou d'une autre, seront dans le pays. Quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques. Autrement dit, une situation périlleuse où la nation tout entière est en péril. Verset 38. Même dans cette situation périlleuse, verset 38. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse le plaid de son cœur, voilà que le mot cœur revient dans un autre contexte, reconnaisse le plaid de son cœur et étend les mains vers cette maison, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rende à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Quand ils reviennent à Dieu avec le cœur et avec des prières et des supplications. C'est important. Salomon parlait également de la réussite, de demander à Dieu la réussite. Verset 44. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, donc la réussite à l'époque sur un plan physique, quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils adressent à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications. Et fais-le droit. Et nous aussi, nous avons besoin de réussir dans la vie, d'entreprendre quelque chose qui est en conformité avec la volonté de Dieu. Et nous pouvons prier, nous pouvons supplier Dieu pour y arriver. Salomon, toujours très réaliste, verset 46, « Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché. Donc une situation vraiment dramatique. S'y rendre en eux-mêmes, verset 47, dans le pays où ils seront captifs, s'y reviennent à toi et t'adressent, quoi? Des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et s'y disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, je saute maintenant jusqu'au verset 49, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Et le verset 51 est très intéressant dans ce contexte. De nouveau, c'est un parallèle avec nous. Car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Nous qui connaissons le plan de Dieu, qui connaissons Dieu, nous qui avons accès à Dieu, nous avons le privilège de pouvoir lui parler, de savoir que Dieu entend, que Dieu écoute, et nous savons que nous pouvons vraiment supplier notre Dieu avec ferveur. Quand nous avons des requêtes, quand nous avons des demandes, que nous prions Dieu, que nous supplions Dieu avec notre cœur, avec humilité et avec intensité. Ce qui est aussi intéressant, c'est la réponse de l'Éternel, la réponse de Dieu aux requêtes, aux demandes de Salomon. C'est ce que nous voyons de 1 Rois chapitre 9 à partir du verset 1. 1 Rois chapitre 9 à partir du verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qui lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon. Verset 3. Et l'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication. » Dieu lui-même fait la distinction entre la prière, quelque chose de plus général, et ta supplication, quelque chose de plus spécifique. Et nous avons vu dans les demandes de Salomon des choses spécifiques, des choses précises. « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Voilà mon cœur, l'expression « mon cœur » que nous voyons de nouveau. Cette fois-ci, il s'agit de Dieu. C'est Dieu qui parle. Verset 4. « Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité du cœur et avec droiture. » Salomon a prié avec son cœur et nous voyons ici le résultat. Dieu a répondu à ses demandes. Avec sincérité de cœur et avec droiture, toujours verset 4, « faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël. » Du reste, si nous regardons le passage parallèle qui se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 7, Dieu dit carrément, « J'exauce ta prière. » Il y a dans 2 Chroniques, chapitre 7, quelques détails qui sont mentionnés et qui ne sont pas mentionnés dans 1 Rois, chapitre 9. Salomon a prié avec d'excellentes dispositions et Dieu a exaucé ses prières. Nous pouvons regarder un autre exemple, l'exemple d'un roi de Juda qui était très méchant, mais qui a fait volte-face, qui a changé de disposition, qui a prié Dieu et Dieu a écouté ses prières. Nous voyons quelques détails de ce changement dans 2 Chroniques, chapitre 33. 2 Chroniques, chapitre 33, il s'agit du roi de Juda, du roi Manassé. Pour situer un petit peu les événements, nous allons commencer à lire à partir de 2 Chroniques, chapitre 33, et le verset 9. Verset 9. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Verset 10. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple et n'y firent point attention. Ils n'étaient pas réceptifs. Dieu intervient, Dieu punit Manassé. Verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Il se trouve maintenant dans une situation désespérée, une situation très très pénible, dramatique. Verset 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, dans cette situation très très pénible, lorsqu'il fut dans la détresse, qu'est-ce qu'il fait? Il implora l'Éternel son Dieu. Et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Manassé a parlé à Dieu avec tout son cœur. Comme c'est marqué ici, il s'est humilié. Il a fait ses demandes à Dieu. Et en ce qui le concerne, c'était plutôt urgent. Il voulait être délivré. Et il y avait, bien entendu, dans cette prière, une intensité qu'on ne peut imaginer. Verset 13. Il lui adressa ses prières. Comme c'est marqué dans la version Rabbina, il l'implora. Il implora. Il lui adressa ses prières, il implora, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça, quoi? Ses supplications, parce qu'il a supplié Dieu. Et l'Éternel, se laissant fléchir. Nous voyons un exemple en parallèle avec ceci, dans Ézéchiel, chapitre 36. C'est le chapitre qui parle du retour et du rétablissement d'Israël. Et dans le verset 37 de ce chapitre, Dieu dit « Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. » Dieu est prêt à nous répondre quand nous le supplions avec notre cœur, avec humilité et avec intensité. Dans les psaumes, il y a une expression qui revient, délivre-moi, l'expression délivre-moi, qui revient à 23 reprises en français. De ces 23, 17 sont de David. 17 sont de David. S'il y a une personne qui savait prier, qui savait supplier Dieu, c'était David. Et quand nous regardons de plus près ces 17 fois, en ce qui concerne David, c'est tout un éventail qui est mentionné. Il parle des persécuteurs. Il avait besoin d'être délivré parce qu'il y avait des persécuteurs. Il avait besoin d'être délivré du méchant. Besoin d'être délivré de ses ennemis, de Saül. Et comme il a dit à un moment donné, « Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. » David a même prier Dieu en demandant à Dieu, et je cite, « Délivre-moi de toutes mes transgressions. » Et nous savons qu'à l'époque, David était souvent en danger de mort. Il y a une autre expression que nous trouvons dans les psaumes, c'est l'expression « Sauve-moi ».« Sauve-moi » qui est mentionnée 17 fois dans les psaumes, dans différentes circonstances, et de ces 17 fois, 14 sont de David. David qui disait, par exemple, « Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Des hommes violents veulent à ma vie. Quand Saül avait fait cerner sa maison pour le faire mourir. David écrit dans le psaume 59, « Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. » David avait souvent, à l'époque, besoin d'être sauvé par Dieu, parce qu'il risquait la mort, souvent. Il n'est pas étonnant que, quand nous voyons les 12 références dans les psaumes, toujours, où il est question de supplication, les 2/3 sont de David, parce que David savait prier, David savait supplier son Dieu. Nous aurons du succès spirituellement quand nous prions de cette façon. L'Église de Dieu avance à genoux pour prêcher l'Évangile comme Dieu veut que nous le prêchions. Il nous faut avancer à genoux. Et en ce qui nous concerne, sur un plan individuel, spirituellement, nous avançons à genoux. Le Christ était bien sûr le Fils de Dieu, mais le Christ a prié souvent, très longtemps. Il avait ce contact permanent avec son Père, et quand il a choisi les 12 apôtres, le Christ avait auparavant passé toute la nuit à prier Dieu. Dans le jardin de Gethsémané, juste avant sa crucifixion, c'est marqué que le Christ était en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'était une prière incroyablement intense, faite bien sûr avec son cœur. Quand nous regardons l'apôtre Paul, nous constatons qu'il était très conscient de qui il était, c'est-à-dire qu'il était très conscient de son insuffisance. Par exemple, c'est Paul qui dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien. » Romains chapitre 7, verset 18, je ne m'y rapporte pas. Et puis c'est Paul aussi qui a dit « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 3. Paul était un instrument dans les mains de Dieu, comme Dieu a dit, un instrument que j'ai choisi. Et Paul, qui avait un sens aigu de son insuffisance, voyait la nécessité absolue de la prière, de prier souvent, de supplier Dieu. Que feriez-vous si vous vous trouvez dans une situation impossible, tout en sachant que quelqu'un peut vous aider à vous en sortir? Nous sommes bien entendu familiers avec Luc chapitre 11, où c'est marqué, entre autres, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Et c'est à la fin de ces quelques versets que nous lisons « À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Dieu est à l'écoute de nos demandes, à l'écoute de nos supplications. Mais Dieu veut qu'on le supplie pour un certain nombre de choses. Psaume 34 et le verset 18. C'est une écriture qui est très encourageante. Dans Psaume 34, verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Le rabbin a dit ceci, ceux qui implorent, l'Éternel les entend. Mais dans la version Martin, quand les justes crient, l'Éternel les exauce et il les délivre de toute leur détresse. Bien sûr, il faut se trouver dans la catégorie des justes, Mais Dieu entend les justes, Dieu exauce les justes et Dieu délivre les justes quand ils crient. Pourtant, quand nous regardons la vie de Paul, nous voyons qu'il avait beaucoup de volonté, qu'il avait des talents, beaucoup de talents, du dynamisme, et pourtant Paul ne pouvait pas y arriver sans l'aide de Dieu. Même la conversion ne suffit pas, parce que la conversion est un premier pas. Le chrétien a un besoin constant de l'aide de Dieu, de son intervention, de sa sollicitude. Et pour avoir l'aide de Dieu, nous avons besoin d'être proches de Dieu. Sinon, nous ne pouvons pas y arriver. Sans son aide, nous ne pouvons pas y arriver. Sans la puissance qui vient de Dieu. L'apôtre Paul aimait beaucoup les frères dans l'Église. Et par voie de conséquence, Paul faisait beaucoup de prières d'intercession. Il voulait que ses ouailles soient affermies dans la vie chrétienne. Il voulait absolument qu'ils croissent spirituellement. Il voulait leur bien-être, leur succès. Paul était très conscient qui il était, d'où il venait. 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 9. C'est Paul qui parle à propos de lui-même. 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 9. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Paul n'était pas orgueilleux, pas pris par sa position, et ses prières d'intercession pouvaient être faites avec l'humilité. Nous voyons dans 1 Timothée l'amour et la sollicitude qu'il avait pour Timothée. 2 Timothée, chapitre 1, verset 1. 2 Timothée, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Que ce soit Timothée ou que ce soit les membres de l'Église, Paul aimait les frères. À Timothée, verset 2. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. À partir du verset 3, je vais vous lire dans la version Darby. Verset 3. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers dès mes ancêtres avec une conscience pure de ce que je me souviens si constamment de toi dans mes supplications, nuit et jour, désirant ardemment de te voir, me souvenant de tes larmes, afin que je sois rempli de joie. Des prières, des supplications sincères, faites avec le cœur. Des demandes, des requêtes intenses de la part de l'apôtre Paul. Et Paul s'attendait à ce que ce genre de prières, ces supplications, aient un résultat. Cette fois-ci, dans 1 Timothée, chapitre 2, et le verset 1. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, toujours donc cette distinction, des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Mais pourquoi? Je continue le verset 2. « Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Que le peuple de Dieu soit béni, béni physiquement et béni spirituellement. Et à travers eux, l'œuvre de Dieu. » Nous ne pensons pas forcément prier ou faire des supplications pour ceux qui sont mentionnés ici, mais nos dirigeants ont besoin de nos prières. Surtout à notre époque, qui est une époque particulièrement difficile. Et c'est bien marqué avant toute chose. Il s'agit ici de prier, de faire des supplications pour avoir un résultat important. Philippiens chapitre 4 et le verset 6. Nous sommes assez familiers avec cette écriture. C'est plus difficile à la mettre en pratique. Philippiens chapitre 4 et le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, donc de nouveau cette expression, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Des prières et des supplications avec des actions de grâce. J'ai voulu vous lire ceci dans le Darby qui est un petit peu différent. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Quand nous supplions Dieu, comme nous avons déjà vu, ce sont des requêtes, ce sont des demandes. Donc, nous faisons des requêtes auprès de Dieu. Nous avons des besoins, c'est certain. Nous avons des besoins physiques et nous avons des besoins spirituels. Nous avons tellement de besoins en tant que chrétiens. Nous avons besoin d'être délivrés de nos épreuves. Nous avons besoin que Dieu pourvoie effectivement à nos besoins. Sur un plan physique et sur un plan spirituel, nous avons besoin d'être fortifiés face aux tentations. Regardons le verset 7 qui est un verset très encourageant parce que quand nous faisons ce genre de choses, quand nous prions, quand nous supplions Dieu avec des actions de grâce, comme c'est marqué dans le verset 6, il y a une suite. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous faisons confiance à Dieu, et Dieu nous donne sa paix. La tranquillité mentale, parce que nous faisons confiance à Dieu, nous avons demandé à Dieu, nous avons supplié Dieu. Nous avons confiance que Dieu nous a entendus et que Dieu prendra soin de nous, répondra à nos requêtes selon sa volonté. Nous voyons dans le verset 19, toujours le même chapitre, chapitre 4, verset 19, la confiance de Paul. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et nous pouvons demander à Dieu. Nous avons besoin aussi de la protection. Nous avons besoin de la sagesse dans ce monde qui est influencé par Satan. De la sagesse pour éviter des pièges. De la sagesse pour ne pas être séduit par les voies du monde. Nous avons beaucoup de besoins. Et nous pouvons faire des requêtes auprès de Dieu, supplier Dieu pour que Dieu prenne soin de nous. Les autres aussi, bien entendu, ont des besoins. Surtout dans cette période avec le COVID-19, les gens, beaucoup de gens maintenant, sont exposés au point de vue santé. Nous avons des frères qui sont plus vulnérables à cause de leur âge, ou peut-être parce qu'ils sont malades, et nous pouvons supplier Dieu pour qu'il les protège. Il y a aussi des gens qui souffrent de la pauvreté, et nous pouvons supplier Dieu pour qu'il pourvoie à leurs besoins physiques. Philippiens chapitre 4, verset 6. Je reviens donc à Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Nous pensons probablement prier Dieu quand il y a une catastrophe qui arrive. Quand un frère ou nous-mêmes sont gravement malades. Mais c'est marqué ici toute chose. Et rien n'est trop petit pour Dieu. Dieu s'occupe aussi des détails. Il ne tombe pas un passereau à terre sans la volonté de Dieu. Donc ce qui semble peut-être être dérisoire pour un être humain, nous pouvons demander à Dieu. Si nous sommes en voiture et que nous avons peur de ne pas trouver une place de parking, nous pouvons le demander à Dieu. Et ça peut être une source d'encouragement quand Dieu réponde à nos prières, à notre demande. Nous pouvons tout dire à Dieu. Nous pouvons parler de nos échecs, nous pouvons parler de nos peurs, et nous pouvons supplier Dieu pour qu'il nous aide à faire face et à surmonter nos peurs. Rien n'est trop petit pour Dieu, mais rien non plus n'est trop grand pour Dieu. Tout est possible pour Dieu, si c'est conforme à sa volonté et si nous sommes en harmonie avec sa voix. Dieu peut rendre possible ce qui nous semble être impossible. Dieu peut changer le cœur des gens. Comme c'est marqué dans Proverbe 21, le cœur du roi est un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Et dans Proverbe chapitre 16, verset 7, je ne m'y rapporte pas, Proverbe 16, 7, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Dieu peut tourner le cœur des hommes. Dieu peut nous protéger. Dieu peut tout faire. Quand nous parlons les uns avec les autres, parfois nous apprenons que notre frère ou notre sœur a un problème, qui sont malades, et nous disons, « Je vais prier pour vous. » Mais si nous disons ceci, c'est quelque chose qu'il faut prendre à cœur, de supplier Dieu avec notre cœur. C'est Samuel qui disait, « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. » Nous devrions être concernés par la qualité de nos prière. Paul priait pour lui-même, mais Paul priait aussi beaucoup pour les autres, et Paul avait même besoin des prières des autres. Paul qui n'a jamais perdu son sens d'insuffisance. Quatre des épîtres de Paul étaient écrites quand il était un prisonnier. Il s'agit d'Éphésiens, de Philippiens, de Colossiens et de Philémon. Mais regardons, si vous voulez bien, Philippiens chapitre 1. Nous allons commencer à lire à partir du verset 3. Philippiens chapitre 1, verset 3. Je lis ceci dans la version Darby qui fait ressortir quelque chose qui n'est pas dans le second. Alors Philippiens chapitre 1, verset 3. Je rends grâce à mon Dieu pour tout le souvenir que j'ai de vous dans chacune de mes supplications. Dans chacune de mes supplications, faisant toujours des supplications pour vous tous, avec joie, à cause de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, étant assuré de ceci même, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Paul était dans une situation difficile, mais Paul continuait à supplier Dieu pour ses ouailles. Il peut y avoir de la noblesse dans nos prières. Nous faisons des supplications à Dieu pour nous-mêmes. Nous avons des besoins, c'est certain. Mais les autres ont également besoin de nos supplications. Salomon a supplié Dieu pour Israël, pour son peuple. Daniel a supplié Dieu pour Jérusalem. Et nous pouvons supplier Dieu pour nos frères et pour nos sœurs qui sont dans le besoin. Jacques, chapitre 5, et le verset 16. Une écriture avec laquelle nous sommes très familiers. Jacques, chapitre 5, et le verset 16. De nouveau, je lis ceci dans la version Darby. Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre en sorte que vous soyez guéris. La fervente supplication du juste peut beaucoup. Nous voyons ici ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens quand il y a un frère ou une sœur qui est malade, de prier, de supplier Dieu et même de supplier Dieu avec ferveur tout en marchant dans la voie de la justice. Dans Psaume 27, verset 1, je ne vais pas m'y rapporter, Psaume 27, verset 1, c'est un psaume de David, où David dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? » Nous pouvons nous confier à Dieu pour surmonter nos peurs, mais à condition que nous gardons cette relation spéciale avec lui par la prière et les supplications. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants bien-aimés.